Tu écris, je vois. Saison 2.
Nous vivons à Londres dans un grand appartement. Jill et Peter, mes parents humains, n'aiment pas tellement que j'aille me balader dans le quartier. Mais j'arrive toujours à profiter d'un moment d'inattention de leur part pour m'esquiver. Étant donné que nous sommes au premier étage avec terrasse, c'est facile. S'ils préfèrent me voir à la maison, c'est à cause d'une aventure qui m'est arrivée alors que j'étais très jeune et que je vais vous raconter. Vous connaissez Casper ? Non ? Alors c'est que vous n'êtes pas britannique, car tous les Britanniques le connaissent, ou plutôt l'ont connu, puisque le pauvre est mort il y a quelques années. Un accident de la circulation. Je me souviens qu'à cette occasion, il n'y en avait que pour lui dans les journaux. Même le Times lui avait consacré une première page. Or, une première page du Times consacrée à un chat, ce n'est pas banal. Il faut dire que si Casper était une telle célébrité, c'est que ce n'était pas un chat ordinaire. Tous les jours, il prenait le bus numéro 3, chez lui, à Plymouth, et faisait le tour de la ville avant de rentrer pour les croquettes du soir. Pour prendre le bus, il faisait la queue avec les autres voyageurs, attendant son tour pour monter, et s'il trouvait une place libre, il s'asseyait, se mettait en rond et faisait sa petite sieste. Jill, Peter et moi-même avions été désolés d'apprendre son décès, mais cette histoire avait semé dans ma jeune tête une graine d'aventure et d'ambition. Je me disais, si moi aussi je prenais le bus, je deviendrais célèbre et Jill et Peter seraient fiers de moi. Je voulus passer à l'action le plus vite possible, mais il restait un point capital à résoudre. Quel bus allais-je prendre ? Pour Casper, les choses avaient été simples. Le bus numéro 3 s'arrêtait devant chez lui. Il ne s'était pas posé de questions, il avait pris. Mais pour moi, chat londonien, les choses étaient différentes, car j'avais remarqué une bonne douzaine de lignes différentes en bas de l'immeuble. J'avais beaucoup réfléchi à cette question lorsqu'un soir, au moment de m'endormir, la réponse s'imposa à moi. J'irai à Buckingham Palace. J'avais décidé d'aller voir la reine. J'imaginais les titres de la presse nationale. Bertie, le chat qui a regardé la reine. Un chat de St. John's Wood traverse Londres pour contempler la royauté. Le rouquin de Greville Place, reçu à Buckingham. Je savais donc maintenant quel était mon but, ce qui me permettait de passer à la phase suivante, choisir le bus ad hoc. Quand Jill et Peter recevaient des amis de l'étranger, ils les emmenaient souvent voir la relève de la garde devant Buckingham Palace. J'avais donc appris que pour s'y rendre, il fallait prendre le bus numéro 16. Ensuite resterait le problème le plus épineux, entrer dans le palais pour saluer la reine. Je savais que si l'Union Jack ne flottait pas au-dessus de la façade, cela voulait dire qu'Elizabeth n'était pas chez elle. Dans ce cas, je reviendrais un autre jour. Mais si le drapeau indiquait que la reine était bien là, il me faudrait pénétrer dans le palais et réussir à la trouver. Il me faudrait aussi échapper au chien corgi qui apparemment ne la quitte jamais. N'importe, j'étais déterminé. La porte-fenêtre sur la terrasse était ouverte et je n'eus aucun mal à m'esquiver à quitter le domicile familial. Je trottinais, perdu dans mes pensées, lorsque je fus soudain conscient d'une présence à mes côtés. Je levai la tête et vis une femme aux cheveux gris argentés qui me souriait de toutes ses dents. Je lui rendis son sourire, remplissant les yeux, et elle se pencha pour me caresser. Je fermai les paupières pour mieux savourer ce moment, toujours fort agréable pour un chat, quand je me sentis soudain happé par la peau du cou. J'ouvris les yeux, étonné, et fut horrifié de découvrir le visage de la femme aux cheveux gris tout à coup transformé. Elle avait l'air d'une sorcière. Elle souriait toujours, mais d'un sourire hideux, méchant et cruel qui me fit instantanément froid dans le dos. Avant que j'aie le temps de réagir, elle avait ouvert le couvercle d'une poubelle qui était sur le trottoir et m'avait jeté dedans. Non sans s'être assuré d'un coup d'œil circulaire, que personne ne remarquait son manège diabolique. Je me retrouvais au fond de la poubelle, assommé par le choc physique et psychologique. Il y avait quelques relents d'odeur de poisson qui n'étaient pas désagréables, mais rien à manger et surtout cette sensation de se retrouver prisonnier qui me terrifiait. Je me mis à gratter et à miauler, sans résultat. J'essayais de grimper le long de la paroi pour atteindre le couvercle, mais la paroi était lisse, sans quoi que ce soit pour s'agripper. Je me mis alors à pleurer, d'autant plus que je commençais à avoir faim et qu'il ne restait absolument rien dans la poubelle qui puisse me permettre de me sustenter. Je passais alors de la désolation à la rage, griffant les parois de toutes mes forces et poussant ce que je pensais être de vrais feuillements de tigre, mais qui, à l'évidence, n'étaient pas assez puissants pour alerter qui que ce fût. J'étais agité par un maelstrom de sentiments tous plus négatifs les uns que les autres. Angoisse de mon avenir, tristesse de ma situation présente, rage de m'être ainsi laissé berner, vexation à la pensée que l'aventure que j'avais projetée avec tellement de joie et de fierté se terminait de façon pitoyable et ridicule. J'entendis à un certain moment la pluie qui commençait à tomber. Elle tomba de plus en plus fort, tambourinant sur ma poubelle et au bout de quelques temps, l'eau commença à s'infiltrer sous le couvercle. Je me dis que j'allais périr noyé. Je pataugeais dans plusieurs pouces d'eau, le poil de mon ventre déjà tout collé, et je commençais à grelotter de froid. Je ne m'étais jamais senti aussi misérable. La nuit était sans doute venue, car les bruits de circulation s'étaient beaucoup calmés. La seule bonne nouvelle était que la pluie avait cessé et l'eau ne montait plus autour de moi. Au bout d'un certain temps, je commençais à percevoir que la vie reprenait dans la rue. Je me remis à gratter, à miauler en me disant qu'un passant finirait bien par m'entendre. Mais si, sans prendre garde à ma présence, quelqu'un vidait des sacs d'ordures dans la poubelle, que se passerait-il? Après avoir échappé à la noyade, je finirais étouffé sous les détritus. Je n'aurais sûrement pas la première page du Times, mais j'imaginais assez bien qu'à la rubrique « Chiens écrasés » à un comble, quelques lignes seraient consacrées à la découverte du cadavre d'un jeune chat roux sous des tas d'immondices. Horreur! Alors que j'étais perdu dans ces pensées morbides, j'entendis, près de ma prison, deux voix qui me semblaient reconnaître. Un texte de Véronique Réau.